Émile Blémont, un fantaisiste. Jacques Fer, dont la verve humoristique fit quelque temps sensation dans le journalisme parisien et qui, tout jeune, disparut si tragiquement, n'a presque rien laissé d'inédit. Il improvisait au jour le jour ses fantaisies brèves et outrancières. Jamais il n'avait eu le loisir ou la patience d'entreprendre de poursuivre une œuvre de longue haleine. Voici un des rares manuscrits qu'on a trouvé dans ses tiroirs. Les circonstances où il mourut donnent à ses pages aventureuses un intérêt particulier. Fantaisie au fulminat. J'étais dans mon cabinet de travail, occupé à terminer le 11e chant du grand poème épique que j'intitulerai probablement « La Madone des Capitulations », quand mon secrétaire me remit une carte. Félix Bien, Félix Dantier, homme du monde, membre de plusieurs cercles ignorants. « Faites entrer !» m'écriai-je aussitôt. Mon secrétaire se hâta d'introduire la personne, et je m'avançai vers le seuil en répétant « Entrez donc, mais entrez donc, monsieur Félix Bien, Félix Dantier. Je n'ai pas l'avantage de vous connaître et je suis curieux d'apprendre ce qui me procure le plaisir et l'honneur de votre visite. » Il me salua, me regarda rapidement, assura ses lunettes et s'engloutit dans le fauteuil vert que j'avais roulé jusqu'à lui. Je me rétablis moi-même sur mon siège de cuir où j'attendis, en agitant modestement mon coupe-papier avec toutes les marques d'une attention qui se dispose à être la plus soutenue. Monsieur Félix Dantier était un homme de 45 ans, à la figure étroite et longue, une figure qui semblait avoir été malicieusement tirée, comme un bâton de pâte de guimauve, par un bâtonnier fantastique. Son crâne était chauve, avec des paquets de gazon d'un châtain foncé, se desséchant ici et là au-dessus d'une immense oreille droite et d'une oreille gauche qui me faisait l'effet d'être encore plus immense que la droite. Il portait une cravate noire très haute et très roide avec un tout petit nœud par devant. Le plastron de sa chemise de toile était à plis larges et peu empesé, sous un diamant d'une monture bizarre à la boutonnière unique. Son vêtement noir tenait le milieu entre la redingote et la lévite. Gilet noir, pantalon noir également. Des deux manches supérieures sortaient deux mains longues, osseuses, poilues, comme les pattes d'un gorille. Des deux manches inférieures sortaient deux pieds, d'une taille exactement proportionnelle à celle de l'oreille gauche, et enchâssés dans des souliers de gros cuir à double élastique, souliers dont l'un, je ne me rappelle plus lequel, semblait avoir été coupé tout exprès vers le bout par suite d'une infirmité pédestre de la personne. J'attendais toujours, en agitant modestement mon coupe-papier, et pour mieux me recueillir, j'avais baissé les yeux. Je les relevais vivement en entendant le son de la voix de M. Félix Bien, Félix Dantier, voix sèche, gutturale et sifflante comme celle d'une Anglaise sur le retour. « Monsieur, me dit-il, vous ne devinez point ce qui m'amène. Oh, j'aurai le plaisir de l'apprendre de votre bouche. Monsieur, je suis membre circulant d'une société qui a pour but la propagation du suicide, et je viens vous demander si vous voulez bien en faire partie. » « Et comment se fait-il, monsieur, que vous ayez pensé à venir me demander cela à moi indigne ?»« Monsieur, vous êtes journaliste et poète. En outre, vous êtes sentimental et nerveux. »« Mais comment savez-vous cela, monsieur ? Êtes-vous sûr de ne point vous tromper ?»« Oh, monsieur, nous avons notre police. »« Ah, et comment fonctionne votre société ?» Elle s'est réunie deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, le jour de Mars et le jour de Vénus. On y étudie les moyens les plus commodes pour passer de vie à trépas. On y fait des expériences sur la pendaison et les phénomènes sensuels qui l'accompagnent. On y commande vers terre et les passages intéressants de Jean-Jacques Rousseau. On y récite des vers élégiaques sur le charme du repos éternel et l'on y fait, en prose académique, l'éloge bien senti du néant. Les partisans de la crémation y apportent quelquefois, en cachette, des sujets sur lesquels on expérimente un nouveau système. On y cherche le moyen de faire descendre le goût du suicide jusque dans l'âme des animaux. Nous avons déjà obtenu plusieurs suicides de singes. Si les bœufs, les veaux, les moutons, les lapins, les chats et les poulets pouvaient se suicider régulièrement, mais que de crimes épargnés à l'humanité! Nous songeons à envoyer une mission en Prusse pour y remplacer définitivement l'émigration par le suicide. En Angleterre, pays du spleen naturellement, nous aurons aussi des missionnaires. Les hommes se multiplient et croissent, tandis que la terre semble rapetisser. Que voulez-vous ? Le meilleur moyen d'empêcher les gens de se tuer les uns les autres, par persécution, assassinat ou guerre, c'est d'en amener le plus possible à se détruire de leurs propres mains. Mes idées ne sont-elles pas les vôtres, monsieur ? Et ne trouvez-vous pas que nous sommes dans une voie parfaitement philanthropique ? Ah, j'aurais besoin, monsieur, d'y réfléchir plus mûrement. Monsieur, ajouta mon interlocuteur en tirant de sa poche un petit livre à couverture bleue, je suis l'auteur d'un traité sur les perfectionnements apportés aux divers genres de suicide, sur les sensations suprêmes des divers genres de suicidés, sur les progrès de l'humanité par le mépris de l'existence et sur les vastes horizons que l'avenir ouvre aux morts volontaires. Vous êtes un homme précieux. Oh mon Dieu, non, mais j'ai creusé la question. J'aime le suicide, c'est ma partie. Je cours Paris pour assister aux événements, je passe des nuits entières dans une attente fiévreuse sur les meilleurs ponts. J'applaudis avec frénésie quand un héros se précipite. Et si ce n'était la bourre de l'art, j'aurais mille fois déjà succombé à la tentation. Mais vous, monsieur, le suicide élève singulièrement l'homme. D'abord, si tout le monde se suicidait, on pourrait croire tout le monde immortel. Ah, pardon, je ne comprends pas. Mais l'homme aurait l'air de ne pouvoir mourir que par sa volonté personnelle. Ah, ce n'est pas la même chose. En fait, le suicide tout dérobe à la honte de la vieillesse, à la douleur de la maladie. Mais monsieur, tenez, je vais vous faire juge d'un nouveau procédé, d'une simplicité extrême que je viens d'imaginer pour en finir avec les ennuis de ce monde. On prend. Que faites-vous ? M'écriai-je en le voyant prêt à donner l'exemple. Oh non, non, ne craignez rien. J'ai toujours sur moi un papier où j'assume toutes les responsabilités. Et avant que j'eusse pu le prévenir, l'arrêter et le mettre à la porte, M. Félibien Félinantier avait avalé un paquet de je ne sais quelle fulminate qui soudain éclata dans sa poitrine, envoya sa tête à travers mes carreaux, son tronc dans une tourte qu'un bitron portait sur le trottoir de la rue, sa jambe gauche dans ma bibliothèque et sa jambe droite dans ma cheminée. Les deux bras retombèrent du plafond sur ma chancelière et l'oreille gauche me donna un si rude soufflet que j'en perdis connaissance. Exemple trop frappant d'une monomanie trop frénétique. Singulier appel à l'esprit d'imitation. Étrange façon d'endoctriner le monde. Serait-ce donc au nihiliste la propagande que nous réserve l'avenir ? Tel est exactement l'article inédit de Jacques Fer. Pourquoi ne fut-il pas porté aussitôt fait à une des feuilles auxquelles collaborait l'auteur ? À cette question répondent probablement les quelques mots ajoutés par lui en travers de la première page. Ne plaisantons pas sur ces choses-là, il ne faut badiner ni avec l'amour ni avec la mort. On sait dans quelles circonstances, pour une jeune fille dont il ne put obtenir la main et qui épousa un peintre célèbre, Jacques Fer finit par s'envoyer une balle dans le cœur. Pensa-t-il en se détruisant à la fantaisie légère et funèbre qu'il avait écrite puis écartée naguère ? L'ironie du destin est sévère pour nos badinages.